Ouais, salut Daniel, je viens d'écouter les informations de France Inter et franchement, il y a quand même de quoi rire. On vient d'avoir droit à la leçon de morale de Monseigneur Kadhafi et c'est quand même assez rigolo, sachant que maintenant on a au pouvoir notre bonne vieille droite conservatrice, réactionnaire, pro-Bush, antiterroriste et tout, prompt à sauter sur l'Iran s'il commence à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à développer des armes nucléaires. Et c'est cette droite-là qui reçoit, en courbant les chines, le fameux Muammar Kadhafi, parce que Monsieur Kadhafi va peut-être acheter des avions tout pourris à Monsieur Dassault qui n'arrive pas à les vendre. Alors bon, on se retrouve avec un ancien terroriste, financier du terrorisme, qui nous fait la morale et qui prend le beau rôle en rappelant ce que les colonisateurs ont fait subir à l'Afrique. Enfin bon, moi ce que je sais, c'est que l'Afrique, elle n'a surtout pas besoin de colonisateurs ni de néocolons comme nous autres ou même aujourd'hui les Chinois et les Africains. Mais ce qu'elle a vraiment pas besoin non plus, c'est de ces soi-disant libérateurs comme Monsieur Kadhafi, qui eux aussi exploitent à fond les ressources naturelles de leur pays, non pas pour libérer leur peuple ou leur permettre d'accéder à l'éducation ou à la santé, vu qu'on met les infirmières, on prend les infirmières en otage, mais qui se sert de ces ressources, et bien pour quoi faire? Pour acheter des Rafales et des centrales nucléaires à l'ancien colon. Merci, Monsieur Kadhafi.
Oui, bonjour, ben voilà, moi j'étais en train de rouler tranquillement l'autre jour, hein, puis j'écoutais une émission sur France Culture, et qu'est-ce que j'entends? Que la Libye présidait il y a peu le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Waouh! Je dis waouh, c'est intéressant comme nouvelle. Et là, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Eh ben, à l'ONU, qui c'est qui préside le Conseil des droits de l'homme là-bas? Alors, on trouve la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et Cuba. Waouh! Bon, ben, je crois qu'on a du pain sur la planche, hein. Allez, bonne journée, ciao!
Bonjour les AMG, un renseignement généreux sur une initiative audacieuse et très fraîche. Ce lundi 10 décembre commence le dépôt de plaintes par des citoyens contre l'État français. Des courriers envoyés par chacun de nous partiront en masse vers la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Le but de cette plainte collective? Ralentir, gêner, sinon mettre un terme à la ratification du traité modificatif, dit mini-traité, traité simplifié, et qui n'est rien d'autre que l'ex-TCE de 2005 auquel nous nous étions opposés lors du référendum. L'adoption officielle de ce traité est prévue au 13 décembre 2007. Et nous, sur cette même date, nous attaquons l'État français. Parce que ceux qui vont signer à Lisbonne ne sont pas des représentants élus par le peuple, ne sont pas des membres de ce pouvoir auquel nous avons confié la législation, mais bien plutôt les membres de l'exécutif de nos États d'Europe qui outrepassent là leurs fonctions. Nous attaquons l'État français parce que, de l'ex-TCE à l'actuel TME, il n'est qu'une seule transformation voulue, avouée. Celle de rendre le texte initial de 2005 illisible. Et ça, c'est un crime qui nous éloigne de la chose politique et nous dépossède de nos devoirs autant que de nos droits. Nous attaquons l'État français, enfin, parce qu'il veut ratifier par voie parlementaire ce à quoi nous nous sommes déjà opposés en 2005. Nous refusons le droit à un référendum et le refusant aux Français, les gouvernants européens le refusent également aux autres peuples qui pourtant le réclament. Quelle Europe veut-on donc nous forcer à accepter? Quelle démocratie existe qui voit les citoyens se laisser museler et déposséder de leurs devoirs et de leurs droits? Rejoignez la plainte collective. Inscrivez-vous sur le site www.29mai.eu, téléchargez le texte de la requête, à renseigner et à signer, à envoyer au greffier de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous ne sommes pas sous tutelle, nous sommes responsables et engagés, déterminés. Nous ne laisserons pas faire cette ratification scélérate.
Un message pour les AMG parisiens, même les banlieusards et même les provinciaux de passage à Paris. La tenue d'un nouveau repère le lundi 10 décembre à 20h. C'est à Paris dans le 14e arrondissement. L'adresse c'est le 79 rue Francis de Pressensé. Donc lundi soir à 20h. Alors, c'est notre premier repère, donc on essaiera un peu de faire connaissance, de voir un peu ce qu'on veut faire avec ce repère. Voilà, on vous attend nombreux. Au revoir à lundi.
Salut Daniel, c'est Sarah de Paris. Merci pour toutes tes émissions sur la Colombie. Ça fait du bien d'entendre enfin autre chose sur la situation politique et sociale de ce pays. Tu vas sûrement en parler si tu consacres une émission à la Houpée, mais je voulais d'ores et déjà signaler aux auditeurs de là-bas, si j'y suis, le très beau documentaire de Yezid Campos Sornosa, El Baile Rojo, sur l'histoire de ce parti et sur les assassinats dont a fait l'objet un très grand nombre de ses militants. Le documentaire est assez difficile à trouver, mais il a été diffusé l'an dernier dans une émission de Zaléa TV consacrée à la Colombie. Pour voir cette émission, il suffit d'aller sur le site de Zaléa, www.zaléa.org, puis de cliquer sur Vidéothèque. L'émission a été ajoutée sur le site le 10 janvier 2007. Voilà, encore merci et mucha suerte.
Merci à tous pour ces messages, amis auditeurs modestes et géniaux. À souligner, hein, le nouveau repère de la base, j'y suis, à l'entrepôt à Paris, dans le 14e arrondissement, 7 rue Francis de Pressensé. C'est la première ce soir, et ben bravo, très bien. Les repères marchent bien, tout comme les renseignements généreux. Continuez, continuez à nous adresser des messages. Et vous le faites très bien, ça marche très bien. Aujourd'hui, on continue le voyage en Colombie. Et on va voir qui terrorise qui. Qui sont les terroristes? Qui fabrique le terrorisme? Comment fonctionne ce jeu de miroir à n'en plus finir? À n'en plus finir, puisque ça fait 40 ans que ça dure dans ce pays. C'est pas facile de comprendre, parce que nous, ici, on a l'image, évidemment, d'Ingrid Betancourt avec les méchants, les très très méchants FARC qui la tiennent en otage, et puis voilà, c'est tout. Donc il suffit de les détruire, dire du mal d'eux, et puis ça, voilà. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça lorsqu'on voyage dans ce pays, et surtout quand on parle avec les Colombiens, ce que nous allons faire aujourd'hui avec les Colombiens qui parlent dans le vide. C'est-à-dire ceux qui, la nuit, sur des chaînes de radio, envoient des messages à ceux qui sont otages, quelque part dans la jungle. Il n'y a pas que, on le répétera jamais suffisamment, que Ingrid Betancourt qui est otage. Et puis, d'autres éléments de réflexion sur cette guerre de pauvres aussi. Parce que ceux qui sont engagés dans les troupes paramilitaires, dans les unités combattantes paramilitaires, tout comme ceux qui sont dans la guérilla des FARC, et ben ce sont des pauvres. C'est quand même un pays où, avant tout, l'inégalité est d'une cruauté et d'une barbarie très, très élevée. C'est quand même un trait qu'il ne faut pas perdre de vue et qui se manifeste en permanence quand on parcourt ce pays, ce que nous allons faire jusqu'à 16h dans la base si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je suis un salarié des boulangeries Paul et parce qu'aujourd'hui, on a la rage au ventre, parce qu'on a monté un syndicat CGT, et que tous les jours, on s'en prend plein la gueule. Parce que pour ceux qui savent pas, les boulangeries Paul, à l'intérieur, c'est comme chez McDo, c'est les mêmes conditions de travail, c'est les mêmes salaires minables, les mêmes abus, le même non-respect du code du travail. Et j'ai la rage aujourd'hui, plus que d'habitude, c'est que ça fait plus de 3 semaines qu'un de nos camarades, qui est délégué du personnel dans les boulangeries Paul, il a été suspendu, sans salaire. Parce qu'il a soi-disant insulté sa supérieure. C'est un père de 5 enfants. Je rappelle juste qu'une mise à pied conservatoire, c'est comme ça qu'on appelle sa suspension, qui va le mener à un licenciement. Si ça dure, ça ne concerne pas les insultes, les mises à pied conservatoires. C'est quand un salarié il est dangereux, qu'il met en danger les autres salariés. À aucun moment il a été dangereux, il a juste soi-disant insulté sa supérieure. C'est dur donc et... On se bat, on était là, on était en grève le 20 novembre avec tout le monde. On était, on occupe des magasins, les camarades des usines du groupe Holder, c'est le propriétaire des boulangeries Paul, et la CGT, les ouvriers, là-bas ils ont débrayé aussi contre les répressions syndicales. C'est dur, mais on se battra jusqu'au bout et on espère offrir un Noël aux 5 enfants de ce camarade qui est suspendu, qui a pas de salaire. Si vous voulez nous aider, on a laissé un message sur internet. Vous avez juste à taper non à la répression syndicale dans les boulangeries Paul ou CGT boulangerie Paul sur un moteur de recherche et vous tomberez sur notre communiqué notre adresse. Voilà, merci et la lutte continue.
Salut Daniel, je comprends pas. Ça fait 16 heures exactement que le Téléthon a commencé et on n'a toujours pas vu Sarkozy sur le Téléthon et l'Élysée ne nous a toujours pas informé que M. Sarkozy donnerait une somme substantielle au Téléthon. Alors je m'inquiète parce que je me dis que la machine à propagande et à démagogie de l'Élysée est en panne ce week-end. Je suis très inquiet. Allez, salut, au revoir.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à vos auditeurs. Je viens vous annoncer la mort de mon ami Norbert Rick, plus connu sous le nom de Nono. Né en 1961 à Bischwiller en Alsace, son corps a été découvert dans la Seine au matin du vendredi 7 décembre 2007. Nono faisait partie du paysage de Melun où il survivait du RMI et de la générosité des passants. Sans domicile depuis longtemps, il lui arrivait de passer la nuit sous le pont du maréchal Delattre de Tassigny. On ignore à ce jour les circonstances de sa mort, une enquête de police est en cours. Nono n'avait rien, si ce n'est un cœur énorme, avec beaucoup d'amour à donner. Souvent découragé devant l'ampleur de la tâche pour remonter la pente et trouver sa place dans cette société qui est la nôtre, il aurait fallu qu'il soit aidé et soutenu, comme tant d'autres, de façon spécifique. Ses amis se réunissent en sa mémoire, ce mercredi 12 décembre à 15h, sous le pont du maréchal Delattre de Tassigny à Melun, face au café Le Safari, à l'endroit où sa vie s'est arrêtée. Toutes les personnes qui prennent connaissance de ce message et pour qui Nono était quelqu'un, toutes celles qui ne le connaissaient pas mais qui souhaitent, par leur présence, soutenir ses amis dans la peine et dénoncer la misère en ce monde, sont les bienvenus. Merci à tous. Bonsoir.
Oh, Marie !
Il va falloir qu'on connaisse la vérité. Et comment on peut expliquer qu'il y a 40 sénateurs du groupe de Uribe en prison?
Vamos todos adelante con cariño y mucho amor.
Pues a ver, aquí en esta zona y en el país, hoy estamos en una consolidación de un proyecto de Estado paramilitar.
Ici, dans cette région, mais dans le pays, on est dans la consolidation d'un modèle paramilitaire. Ici.
Ici, on tue tranquillement. Alors, j'ai très peur pour Ingrid ici.
Le président Sarkozy, en tant que président français, demande la libération d'Ingrid Betancourt.
Y inclusive le hemos dicho a varios de los embajadores franceses aquí en Colombia que cuánto nos gustaría tener la ciudadanía francesa.
On a dit à l'ambassade de France qu'on aimerait nous aussi avoir la nationalité française.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Vanctil, Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
Escuchen, escuchen la base de Suisse.
Flight number 2, arriving from...
En 18 ans de reportage, on se dit, bon allez, ça va, on rentre, on arrête, on a tout vu, tout fait. Les situations les plus dingues, les plus... Eh ben non. Eh ben non. Là, on est dans le hall de Radio Caracol à Bogota, parce qu'il est 1h30 du matin, bientôt 2h du matin, et on va assister à une émission très particulière où les familles de ceux qui sont otages viennent à la radio envoyer des messages à leur famille. Et par exemple, il y a cette dame derrière nous qui est en train soigneusement de recopier le message qu'elle va lire tout à l'heure à l'antenne à destination de quelqu'un de proche qui est quelque part, elle ne sait pas où évidemment, en train de pourrir dans un coin de la Colombie. Et on nous a dit, ah mais ce soir, il y a un groupe de musiciens parce qu'il y a un otage dont c'est l'anniversaire et donc il va y avoir un groupe de musique qui va venir lui jouer un petit air, lui faire la sérénade. On s'est dit, ah tiens, un groupe, alors ça c'est formidable parce que les Colombiens sont de tels musiciens qu'on s'est dit, ça nous a ragaillardis. Et alors qu'est-ce qu'on voit arriver? Des militaires en uniforme, des beaux uniformes kaki.
Et la matraque.
Avec la matraque, enfin tout ce qui fait le charme du militaire. Et surprise, il y en a un sur le dos qui a sa guitare. Voilà, et ce sont les militaires musiciens qui vont sans doute faire un petit concert à leurs copains prisonniers quelque part dans la jungle ou dans la forêt.
Cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
C'est irrésistible.
Tragicomique, ça s'appelle.
Ouais, le mec, il a tous ses copains de détention sont en train de se foutre de sa gueule. Non. Mais non. Oui, on vous dit, oui, c'est un suite de reportage en Colombie. Formidable, la musique, les Colombiens. Mais la musique qu'on entend en Colombie, c'est la plus belle musique du monde. Et je vous l'ai dit l'autre jour, tout ce qu'on a enregistré au cours de ces 3 semaines de reportage avec Guy et Antoine, c'était comme ça. C'était comme ça. Mais l'émotion y était. Ils étaient tout à fait bouleversants, ces gars. Sont des auxiliaires de police, en fait. On a cru que c'était des militaires. Ils étaient impressionnants avec leurs uniformes kaki. Mais c'est des auxiliaires de police et ils ont leur capitaine qui est pris en otage. C'est pas drôle du tout. Ils étaient venus dans ce studio de Radio Caracol, pour envoyer un message sonore pour l'occasion de l'anniversaire de ce capitaine. On va passer à un moment dans cette radio dans cette émission qui s'appelle Voces del Secuestro, la voix des séquestrés, la voix des otages, avec ceux qui... Et c'est pathétique et c'est bouleversant, qui adressent des messages aux leurs, alors leurs bien-aimés, à leurs enfants, à leurs parents qui sont prisonniers, qui sont otages, puisque on l'a compris avec Ingrid Betancourt, les otages peuvent écouter la radio. Alors on va voir bien sûr ce qui agace nos amis colombiens quand on est français et qu'on parle d'Ingrid Betancourt, et on n'a même pas besoin d'en parler, on est tout de suite associé, c'est de dire oui, mais il n'y a pas qu'elle, quoi. Hein. Et elle a la chance, elle, d'être française, parce que le gouvernement français s'occupe d'elle, et puis vous venez de loin pour eux, etc. Et ben oui, c'est pas faux. C'est pas faux qu'il y a beaucoup d'autres otages en Colombie, on le disait un peu l'autre jour, c'est presque tous les Colombiens qui sont otages. C'est toute la souffrance déjà ancienne et intériorisée de ce peuple que nous allons retrouver aujourd'hui, même si on peut dire qu'un certain nombre d'entre eux ne craignent absolument rien. Dans les beaux quartiers de Bogota, on ne craint rien, quoique. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
La base de Suisse. Sí. Escuchen la base de Suisse.
Monterrey, una cumbia.
Sofía.
Minutos, estas son otras noticias en última hora de Caracol Radio. En un patio especial para funcionarios públicos de la cárcel quedaron privados de su libertad dos patrulleros de la policía destituidos en las últimas horas. Se trata de Humberto Andrés Gómez Sánchez y Juan Manuel Ballesteros, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento impuesta debido a su presunta.
Ah, c'est beau quand même, c'est vachement...
Ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'en ce moment même, dans la jungle, il y a les familles qui sont en train d'écouter la vie du film.
Bah ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui sont collés l'oreille sur leur transistor, quelque part, et on ne sait pas où, dans ce vaste pays, et qui ont l'oreille, effectivement, qui attendent. Il y a aussi des... Il y a quand même des gueules assez esquintées par cette histoire-là. Il y a plusieurs femmes là qui rigolent pas vraiment.
Allô?
Yolanda Pulesio.
Allô?
Sí, señora, continúe.
Bueno.
¡Ojo, hermano! ¡Ojo!
No, estaba contándote, mi amor, que Oscar Arias, el premio Nobel de Paz, hizo una declaración, dice, si Colombia no tiene la madurez para sentarse a negociar por la paz, por lo menos para el acuerdo humanitario y la liberación de los secuestrados, es lo mínimo. Mi amor, ayer estuve con periodistas de Radio France Internacional como 2 horas y también salió en El Espectador un reportaje muy interesante.
C'est Yolanda Pulesio, la mère d'Ingrid Betancourt, qui est en train de parler à sa fille et lui dire qu'elle a vu aujourd'hui 3 journalistes de Radio France avec qui elle a parlé de la situation des otages et de la situation politique en Colombie. C'est-à-dire qu'elle est en train de raconter à sa fille qui est dans la jungle aujourd'hui qu'on est allé la voir pour lui parler.
Yo he llamado como 1000 veces a todos para ayudar en la organización. Fuerza, mi amorcito. Fe y optimismo. La energía positiva de todos nos ayuda. Y la fe en Dios, mi amor. No dejemos de pedirle a Dios que esto salga. Hoy iré a la misa y comunicaré por ti. Te adoro, mi amor, y te mando miles y miles de besitos. Te adoro.
Listo,
con
Jaime Salem está en línea.
Muchas gracias.
Por favor.
Muchas gracias a Caracol.
Je t'embrasse ma petite chérie, beaucoup de courage, beaucoup de force. J'espère que par la grâce de Dieu on se reverra bientôt. Merci à Radio Caracol. L'animatrice dit qu'on a énormément d'appels, donc on va demander de faire des messages le plus court possible pour qu'un maximum de gens puissent passer à l'antenne ce soir.
Voilà, on est donc dans ce studio de cette radio de Bogota, Radio Caracol, qui chaque semaine, dans la nuit du vendredi au samedi, a une émission où les... Vous avez compris. Les uns et les autres peuvent envoyer des messages à ceux qui sont retenus en otage par la guérilla. Alors, on va parler des cas divers et variés. Hein. Il n'y a pas que, encore une fois, que Ingrid Betancourt qui est otage, mais on est avec Yolanda Pulesio, qui est la maman d'Ingrid Betancourt, qui vient d'envoyer ce message à sa fille en lui disant qu'elle a vu dans la journée les journalistes de France Inter que nous sommes. Et on va parler un petit peu avec Yolanda Pulesio. Vous connaissez, mais pas loupée parce qu'elle est si présente dans les médias. Mais on a quand même été étonnés en rencontrant cette femme, en parlant sur le fond, en allant sur le fond avec elle. C'est une bourgeoise, une grande bourgeoise, une caricature presque. Ces dames que vous voyez avenue Foch, c'est tout à fait ce genre-là. Sauf que, ben voilà, c'est pas seulement une bourgeoise, c'est une femme engagée avec une vision politique. Elle a fait de la politique longtemps dans son pays et elle continue. C'est pas seulement la mater de Lorosa, c'est pas seulement la mère d'Ingrid Betancourt. C'est une femme avec une réflexion, avec une vision et notamment une opposition radicale au président actuel, Monsieur Uribe, et à sa politique et qui le fait savoir. Yolanda, j'ai une première question. Combien vous voyez de journalistes par jour?
Ça dépend. Hier, ils sont venus, je crois, que 4. Mais j'ai parlé par téléphone de 6h du matin jusqu'à, je ne sais pas, les dernières, avant hier, c'était à 10h, j'étais mort de sommeil, et c'était de l'Australie qu'on m'appelait. On m'appelait en espagnol, et on m'a dit, je vous appelle d'Australie, c'est une émission, je parle espagnol, et j'ai traduit ici, incroyable.
Mm-hmm. Ça fait depuis le début. Depuis que Ingrid a été enlevée, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les journalistes du monde se tournent vers vous et vous ne cessez pas de parler.
Si, je ne cesse pas de parler. J'ai fait l'effort d'être prudente. Parce que c'est un peu dangereux de dire la vérité. Mais j'ai toujours envie de dire la vérité. Alors c'est difficile.
On a l'impression, quand on vous écoute et quand on vous lit aussi, que le premier obstacle, le premier adversaire, et presque votre ennemi, c'est Uribe. Vous avez dit d'ailleurs quelque part, président Uribe, je vous hais.
Si un voleur arrive chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas parler avec les voleurs, vous allez à votre état, à la police, à quelque part qui vous soutient, une personne qui les donne la sécurité. Bien sûr, je ne pouvais pas aller à la forêt, chercher les guerrilleros. La première chose, c'est chercher Uribe, de faire quelque chose pour les séquestrer. Parce que ce n'était pas seulement ma fille. Il y a des soldats, des policiers qui sont depuis 9 ans. Et le gouvernement ne fait rien pour eux non plus. Alors, qu'est-ce que demande la guérilla? Publiquement, on demande faire l'accord humanitaire et avoir un endroit de confiance pour pouvoir parler avec le gouvernement. Et ça me paraît logique.
Vous trouvez que la demande, ce qu'exigent les FARC, l'échange humanitaire et une zone démilitarisée pour négocier, ces deux points vous semblent acceptables?
Si, si. Il veut arriver pour parler directement avec le gouvernement, mais dans un endroit où elle peut avoir confiance et être sûre. Et la même chose pour le gouvernement, qui puisse avoir confiance et être sûre. Et ça, c'est possible s'il y a une volonté politique d'une part et de l'autre part. Nous avons vraiment, dans toutes les formes, parlé avec Uribe, supplié pour qu'il change et qu'il soit plus humanitaire. On a fait tout le possible ici en Colombie. Ici, la vie, ce n'est pas très important, la liberté encore moins. Nous sommes dans la guerre, même que le gouvernement ne veut pas accepter qu'il y a un conflit très grave. Il y a des soldats qui sont tués tous les jours, des guerrilleros qui sont tués tous les jours et des paysans qui, pour la guerre, sont déplacés, quantité de déplacés. Et ça fait mal.
Mais on nous dit que ça va mieux. On nous dit qu'on est en train de démobiliser les groupes paramilitaires. On nous dit, le scandale de la parapolitique, mais heureusement, le président Uribe s'en occupe activement, et si ce sont des proches qui sont mis en cause, eh bien, il rompt les liens avec ses proches, les routes sont sécurisées, la guérilla recule, partout il y a des efforts qui sont faits pour normaliser ce pays. Tout n'est pas encore parfait, mais enfin, on est sur la bonne voie. C'est ce qui se dit dans une certaine presse.
Oui, bien sûr, les Santos, El Tiempo. El tiempo appartiene au ministre des Affaires et au vice-président de la Colombie. Ils sont intérêts à dire que tout est merveilleux, que la Colombie n'y a pas de problème. Et tous les chiffres que donnent sont incroyables. J'ai entendu dire au président à Nations Unies qu'il avait fini avec les paramilitaires. Quand on connaît qu'il y a des groupes appelés les Águilas Negras, qui sont en train de tuer...
Les Aigles Noirs.
Qui sont en train de tuer partout à la Colombie, qu'il y a énormément de syndicalistes qui sont tués. Et c'est une autre vérité complètement différente, ce qu'ils donnent partout. Ils payent des gens qui nettoient l'image des gouvernements. Ils payent énormément cher.
Oui, quand vous dites qu'on connaît la vérité en France, que vous connaissez, le président Uribe et surtout la parapolitique et les paramilitaires, c'est beaucoup plus lointain, beaucoup plus flou, et ça n'est pas rentré dans l'opinion en France.
Il va falloir qu'on connaisse la vérité. Et comment on peut expliquer qu'il y a 40 sénateurs des groupes de Uribe en prison? Comment on peut imaginer que ça peut se passer? Et heureusement, il existe encore la Corte suprême de justice.
C'est quand même étonnant quand on vous entend. On pense, depuis la France, la figure d'Ingrid Betancourt est sans doute une des figures les plus populaires en France. Et elle est détenue par des méchants terroristes dans la jungle. Et voilà, point, ça s'arrête là. Or, vous dites presque le contraire, c'est-à-dire que vous êtes presque en train de vous faire l'avocate des FARC.
Non.
De l'avocate de la cause des FARC.
C'est ça, la droite me dit ça, la droite. Non, non. J'ai une douleur très grande de la situation qui nous a causé la guérilla. Et je ne peux pas accepter. Mais quand je vois toute la situation de Colombie, et je parle avec les enfants qui ne trouvent pas de travail, et qu'il y a tellement de manque de solidarité de les classes supérieures, ça me fait mal. Ça me fait mal, comme Simone Ingrid aussi. Je souffre pour la Colombie.
Et vous nous disiez, c'est comme s'il y avait deux Colombies. Une Colombie riche, de classe supérieure, et puis le reste du pays qui s'ignore totalement.
Malheureusement, oui. C'est pas un pays pauvre. Ingrid me disait, maman, si on volait moi, la Colombie serait complètement différente. Parce que les gens arrivent à faire la politique pour s'enrichir. On a besoin d'un leader, vraiment, de la gauche, ou de la droite, mais qui puisse avoir la sensibilité sociale qu'a besoin de la Colombie.
Mais est-ce que vous pensez quand même qu'aujourd'hui, les FARC, la guérilla, a encore un but social, mène une guerre sociale, une guerre politique, de politique sociale?
J'espère, parce que sinon ils sont perdus 50 ans dans la forêt, stupidement, bêtement.
Quel contact, vous évoquez des contacts que vous avez avec eux, mais est-ce que vous avez pu parler avec eux plus longuement?
Oui, bien sûr.
Du fond,
j'ai discuté avec les commandants qu'il y avait à ce moment-là, il y a 4 ans, je crois. Même j'ai parlé avec Simon Trinidad. Je suis allée en prison et peu de temps avant qu'il soit envoyé aux États-Unis. On a parlé pendant 2 heures. Il m'a paru convaincu des choses qu'il faisait, parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de justice sociale en Colombie, qu'il y avait trop de marginaux. C'était une personne idéaliste. Et je me suis dit, peut-être il y a beaucoup qui sont allés à la guérilla comme ça, peut-être. Peut-être Ingrid a pu retrouver des gens comme ça. Et les femmes ne peuvent pas rester toute la vie dans cette situation. Ils ont besoin d'avoir une image dans le monde. C'est ça qu'il veut, une image politique. Et ça, c'est important. Et pour Uribe aussi, parce qu'Uribe est en train de perdre beaucoup de choses. Par exemple, Hillary Clinton, ce qu'il a dit sur la Colombie. Il était sûr de l'appui des États-Unis pour la guerre, pour tout ça. Et maintenant, les démocrates ont une autre position.
Las 4 de la mañana, 11 minutos en Colombia. Estamos en directo a través de Caracol Internacional. Hoy estamos en comunicación con Madame Rochi.
Retour à Radio Caracol, cette émission Voces del Secuestro, où les familles des otages peuvent leur adresser des messages, des bouteilles à la mer qui tombent on ne sait où dans cet immense pays, dans ce grand ventre vert qu'est la Colombie. Et il ne faut pas oublier la cordillère, hein, c'est une drôle de géographie. Et là, si on voulait vérifier que c'est bien la géographie qui fait l'histoire, ce serait assez facile de le faire. Mais Yolanda évoque la revendication des FARC d'être reconnus comme belligérants. Les FARC ont adressé régulièrement des messages au gouvernement du monde, comme ils disent, en disant « reconnaissez-nous comme des belligérants », ce que ne veut pas faire le gouvernement actuel, le gouvernement de la Colombie, ni les États-Unis, qui les ont inscrits sur la liste des groupes terroristes, de même, je le rappelle encore une fois, que les groupes paramilitaires. C'est une des revendications et c'est là que ça coince. Mais c'est quand même intéressant de voir que Yolanda, la maman d'Ingrid Betancourt, a cette position. On ne peut pas dire qu'elle est très claire, évidemment, qu'elle ne va pas se mettre à devenir l'avocate ni défendre les FARC, mais elle souhaite, comme beaucoup de Colombiens, que les FARC soient reconnus comme un groupe belligérant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, mais qu'il accède à cette reconnaissance au niveau national et international. On est donc dans les studios de cette radio, et on dit et on le répète, il y a d'autres otages. Il y a les otages politiques, comme les 45 qui sont dans la même situation que Ingrid Betancourt, dont les trois Américains, qui intéressent beaucoup évidemment l'opinion américaine. Et on a parlé des démocrates américains. Là, il y a tout un jeu d'influence dans le cadre des élections américaines sur la politique de la Colombie. Il y a aussi des militaires et des policiers qui sont comme des prisonniers de guerre dans le cadre des conflits qui opposent les forces armées colombiennes avec la guérilla. Et puis il y a les otages économiques entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont séquestrés, qui sont pris en otage par les FARC en échange de rançon. Il ne faut jamais perdre de vue que dans le cas d'Ingrid Betancourt, la question de rançon n'existe pas, que dans le cas des prisonniers militaires, disons, il n'y a pas de question de rançon, mais pour tous les autres, il y a rançon, c'est une des ressources des FARC. Voilà un témoignage d'une jeune femme qui est ce soir-là, cette nuit-là, à Radio Caracol et qui participe à l'émission La Voix des Séquestrés.
Estoy presente para hablar con una persona, un familiar muy cercano. Yo soy sobrina de una persona que está secuestrada desde el 6 de julio del 2007.
Donc moi je suis là parce que je suis la nièce de quelqu'un qui a été pris en otage. C'était le 6 juillet 2007.
Ah, c'est tout récent alors.
Muy reciente. Llevamos 4 meses de tristeza.
Oui, c'est très récent. Ça fait 4 mois de tristesse pour nous.
Él tiene una esposa, tiene una hija de 5 años.
Il a une fille de 5 ans.
Es difícil, muy difícil, porque no sabemos mucho de él.
Et on sait pas grand-chose de lui.
No hemos tenido muchas pruebas de cómo está él.
De vie.
Y la verdad, pues es difícil manejar esa zozobra todos los días.
Et c'est dur de gérer cette inquiétude quotidienne.
Además, pues él es una persona que es la cabeza de la familia.
Et en plus, c'était le père de famille.
Hacía todo.
C'est lui qui faisait tout.
Manejaba todo él. La empresa la manejaba casi toda él.
Donc c'est lui aussi qui était le chef de son entreprise.
Le cambiaron la vida totalmente.
Ça nous change la vie à tous.
Mais pourquoi il a été enlevé par les FARC?
Quieren dinero.
Parce qu'ils veulent de l'argent.
Ils vous ont fait savoir qu'ils voulaient de l'argent, combien?
Sí, más o menos al comienzo estaban pidiendo 2000 millones de pesos.
Mais au départ, ils demandaient 2000 millions de pesos.
Que no tenemos.
Et on les a pas.
Es un absurdo, o sea,
c'est absurde.
Nous están pidiendo algo que es totalmente absurdo.
C'est une somme totalement absurde.
Ah, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous discutez avec les FARC le montant de la rançon?
No sabemos qué grupo exactamente lo tenga en este momento.
Non, parce qu'on sait pas exactement quel groupe là en ce moment, quoi.
Dicen ser FARC, no sabemos.
Et ils disent qu'on dit que c'est les FARC, mais on sait pas vraiment.
No estamos seguros.
On n'est pas sûr.
Hace 3 meses que no nos volvieron a llamar.
Y en plus, hace 3 meses que no nos han rappelé.
O sea, no solamente la incertidumbre de saber cómo está, sino quién lo tiene en realidad para poder saber con quién negociar en realidad.
Voilà, nous, on aimerait bien savoir où ils sont, qui les tient pour pouvoir vraiment négocier avec eux.
A ti te pueden llamar muchas personas.
Parce que beaucoup de personnes peuvent t'appeler.
Te pueden pedir muchas cosas, pero no estamos seguros.
On peut te demander beaucoup de choses et on n'est pas sûr.
Oui, sí, oui. Lo han hecho.
Oui, il y a d'autres gens qui peuvent profiter du fait qu'il est disparu pour nous demander de l'argent.
Con el dolor de uno juegan con el dolor de la familia.
Hay gente que profite de la dolor de la familia.
Aparece mucha gente que quiere ayudar.
Y hay muchos que aparecen, enfin, que vienen y que dicen que quieren ayudar y que quieren de l'argent.
¿Vos allez lui parler, là?
Sí, queremos enviarle un mensaje. Esperamos que esté escuchando.
Oui, on va lui envoyer un mensaje y on espera que esté en train de escuchar la radio.
No estamos seguros, pero. Sabemos que es una posibilidad.
On n'est pas sûr, mais on sait que c'est une possibilité.
Los grupos normalmente lo hacen, los grupos que tienen secuestrados les dan un radio.
Donc en général, les groupes ont le droit à avoir une radio, les groupes d'otages.
O sea, que es posible que él también, si tiene la posibilidad de tener un radio, la está escuchando.
Alors lui, s'il a la possibilité d'avoir une radio, c'est sûr qu'il écoute.
Y es una forma de mantenerlo vivo, en la realidad, en nuestra realidad.
Es una forma de le garder dans notre réalité, vivant dans notre réalité.
De darle fuerza, saber que no nos hemos olvidado de él.
Y de lui donner de la force pour lui montrer qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne l'a pas oublié.
Bonne chance. Courage.
Muchas gracias.
Merci.
En las tiendas de Men's Store encuentras la ropa Manpower Jeans y ahora las mejores marcas del mundo. Tenis y zapatos Ripley, Vision Streetwear y Levi's.
Elige tu camino.
Relojes Daimler.
El tiempo en tus manos.
Encendedores Zippo.
Enciende tu personalidad.
Superbikes Kawasaki.
Vive sin fronteras.
Manpower Jeans es moda. The Men's Store, el espacio solo para hombres. Puente Aéreo, Centro Comercial Santa Fe, Salitre Plaza, Portal 80 y Plaza de las Américas. The Men's Store.
Le mall, c'est le mal. Voilà. Le mall, c'est le mal. C'est un de ces trucs copiés sur l'American Way of Life. On a partout aux États-Unis, on en a vu au Venezuela. Et en voilà un ici à Bogota. C'est ces centres commerciaux où on peut tout trouver, tout faire, tout vivre. On peut s'engager dans l'armée, il y a des démonstrations de charme. Il y a de très jolis militaires.
On peut acheter un 4x4 de marque. Avec des hôtesses.
4x4 pas cher, c'est la débauche. C'est la débauche. De la conso, on n'en est quand même pas très très loin en France. Enfin, c'est quand même assez costaud là. Hein.
On est très très loin de San José de Apartado. Ouais. On va retrouver Marlène, qui est membre d'une association, directrice d'une association de familles d'otages de l'armée. Des petites bidasses qui se sont fait attraper par les FARC. Et qui sont retenus en otage, très très loin de l'attention du président Uribe, et c'est ça. On voit son petit t-shirt qui dépasse.
Pour la libertad con dignidad. Pour la libertad con dignidad. On n'a pas besoin d'être fort en espagnol pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, rencontre avec Marlene Orjuela. De Asfamipaz, ça veut dire à peu près Association des familles de policiers et de militaires pour la paix. Et oui, des militaires et des policiers qui sont détenus, qui sont prisonniers. Alors cette fois, je ne sais pas si on peut employer le mot otage, en tous les cas, qui sont prisonniers par les FARC et qui, à l'évidence, ne sont pas, font pas partie des premières préoccupations du gouvernement colombien.
Aquí detrás tengo todos los nombres de los 37 policías que están en cautiverio acá en esta camiseta en la parte de la espalda.
Alors là dans le dos là sur mon t-shirt, j'ai les 37 noms des policiers qui sont retenus par les FARC.
Ah, pour la liberté, hein, pour la liberté avec dignité. Et il y a tous les noms de Pablo Emilio Moncayo, qu'on connaît, William je vais en dire quelques-uns au hasard, José Libardo Forero, je vais dire John Jairo Duran. José Miguel.
Julián Guevara, Arvey Delgado, Luis Alfredo Moreno, Luis Hernando Peña, Jorge Trujillo, Amán Flores, Robinson Salcedo, José Miguel Arteaga, Alexis Torres, Walter Lozano, Fernando Galicia.
Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est cette phrase-là qui est très importante. Oui al acuerdo, sí al acuerdo humanitario,
oui à l'accord humanitaire. C'est-à-dire, Marlène, c'est-à-dire qu'avec ce t-shirt-là que vous portez ostensiblement, dans toutes les langues du monde et sur tous les tons, vous voulez dire que vous vous opposez à la politique de votre président.
Sí, no, estamos por la vida y la libertad de nuestros seres queridos.
Oui, parce que nous, on est pour la vie et la liberté de nos êtres chéris.
Por el acuerdo humanitario.
Pour l'accord humanitaire.
Y en contra del rescate militar.
Mais contre, par contre, le sauvetage par les militaires des otages.
Que es igual a muerte.
Ça veut dire la mort des otages.
Marlène, il faut nous rappeler un peu ce que sont les otages ici en Colombie.
Pues se dice en este momento que tenemos 46 personas.
On dit qu'il y a 46 otages.
Entre políticos, policías y soldados.
Entre politiques, policiers et soldats.
Que son los que ha incluido la guerrilla, las FARC, para el acuerdo humanitario.
Qui sont ceux qui sont proposés dans l'accord humanitaire par les FARC.
Y entendemos claramente que tiene la fortuna Ingrid Betancourt de ser ciudadana francesa.
Effectivement, Ingrid Betancourt a la chance d'avoir la citoyenneté française.
Y inclusive le hemos dicho a varios de los embajadores franceses aquí en Colombia que cuánto nos gustaría tener la ciudadanía francesa.
Et on a dit à l'ambassade de France qu'on aimerait nous aussi avoir la nationalité française.
Porque Francia se mueve con sus gobiernos por una ciudadana francesa.
Parce que la France se démène pour sa ressortissante.
Mientras que nuestros gobiernos en Colombia pueden tener 50, 100, 200 mil secuestrados y quienes nos movemos cada segundo en este país por ellos somos las familias.
Parce que le gouvernement colombien, lui, par contre, qui a des centaines ou des milliers d'otages, ne fait rien et ce sont les familles qui sont obligées de tout faire.
A nivel internacional, inclusive, se ve como si fuéramos enemigos del gobierno por hacer nuestra lucha libertaria.
Même au niveau international, on a l'impression des fois d'être les ennemis du gouvernement pour demander la liberté des otages.
Y tanto le ha faltado al gobierno el presidente Uribe voluntad política para hacer el acuerdo humanitario.
Le gouvernement a vraiment manqué de volonté politique pour régler cet échange humanitaire.
Se le han pasado las dos partes entre el odio y el cantar de las balas.
Il n'y a que deux choses qu'on a pu ressentir, c'est la haine et les balles qui sifflent.
Et quel est l'intérêt que vous porte le reste de la société colombienne, ceux qui n'ont pas d'otages?
Bueno, muchos colombianos son indiferentes a la grave crisis humanitaria que vivimos en Colombia con nuestros familiares secuestrados. Desgraciadamente.
Beaucoup de familles colombiennes sont indifférentes à notre problème humanitaire et à ce que vivent les familles des otages.
Pero desafortunadamente los colombianos siempre esperan que el conflicto armado toque a su puerta para solidarizarse con nuestra causa libertaria.
Et malheureusement les colombiens en général attendent d'être touchés personnellement pour justement prendre parti et nous rejoindre dans cette lutte.
Mais on a l'impression que là si on allait se balader dans ce grand centre commercial et demander aux gens qu'est-ce que vous pensez du conflit, qu'ils sentent que ça leur passe au-dessus de la tête, qu'ils ont même pas pensé qu'il y a un conflit. On a l'impression qu'il y a deux pays quoi, il y a le pays qui est dans les campagnes et qui est confronté au quotidien ou avec les paramilitaires ou avec les FARC, et puis ceux qui vivent dans les grandes villes et qui ont envie d'être le plus loin de ça et qui effectivement arrivent à vivre dans une bulle loin de toute cette guerre.
Et pour ça précisément, y aclaro que no estoy en contra de esos actos de terrorismo, pero por eso es que los actos terroristas en las ciudades y principalmente en el lugar de las élites duele tanto.
Alors moi je veux tout de suite dire que je suis contre les actions terroristes, mais c'est pour ça que les actions terroristes qui sont menées ici dans les villes et dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers riches, touchent et blessent fortement les élites du pays.
Les riches et les politiques, c'est ça ce que vous dites?
Sí, exacto. Entonces, a ellos no se les puede tocar, pero todos los pobres hay que desplazarlos, hay que matarlos, hay que desaparecerlos, hay que secuestrarlos.
Alors, y les riches, no, il faut pas les toucher, il faut rien leur faire, mais par contre, les pauvres, on peut les déplacer, on peut les...
Desaparecidos.
On peut les faire disparaître, etc. On peut les tuer. On peut les prendre en otage, et ça, il n'y a pas de problème. Ça pose pas de problème.
No duelen.
Et ça fait de mal à personne, ça.
C'est comme si dans ce pays, il y avait la guerre pour les pauvres, et que les riches arrivent à vivre dans un pays presque normal.
Claro, casi, pero
oui, presque.
Es cierto. Se matan los guerrilleros que son gente pobre y los policías y soldados que van a combate son gente humilde.
Ceux qui se tuent, ceux qui meurent, c'est les guerriers, c'est en général des gens du peuple et les militaires et la police qui sont aussi les gens du peuple.
Porque ni los generales de la policía y del ejército van en primera línea de guerra, ni los comandantes de la guerrilla tampoco van en primera línea de guerra.
Dans les premières lignes, on ne retrouve pas les généraux et les commandants de la police, ni ceux de la guérilla, d'ailleurs.
Y los presidentes sí que menos.
Et les présidents, encore moins.
C'est quoi l'accord humanitaire?
¿Qué es el acuerdo humanitario?
El acuerdo humanitario es un acuerdo que firman gobierno y guerrilla las FARC para que nos entreguen a nuestros seres queridos que están
privados de la libertad a cambio de guerrilleros que están en las cárceles.
C'est un accord entre le gouvernement et la guérilla des FARC pour que nos familles qui sont emprisonnées, qui sont prises en otage, soient libérées en échange des guérillons des FARC qui sont emprisonnés par l'État, par le gouvernement.
Mais ça, Ouiri Bey, il dit hors de question. Il ne veut pas de négociation, il ne veut pas d'échange humanitaire avec les FARC. La position du président Ouiri Bey est très ferme.
Sí, vemos que siempre en él hay mucho odio y mucho resentimiento con esta guerrilla de las FARC.
Oui, de toute façon, Uribe déteste vraiment la guerrilla.
Est-ce que vous avez rencontré des responsables des FARC?
Sí, hace cuando estaba especialmente en la zona de despeje pude hablar con todos los comandantes de las FARC.
Oui, quand j'étais dans la zone démilitarisée, j'ai pu parler avec beaucoup de représentants des FARC.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de vos impressions, vos... Comment vous les avez trouvés?
Bueno, resultó cuando eso podíamos ir todas las familias a presionar tanto al gobierno y a la guerrilla con apoyo, digamos así, de la comunidad internacional para lograr el acuerdo humanitario del 2001.
Donc là, à ce moment-là, c'était en 2001, on a réussi justement à mettre la pression et sur le gouvernement et sur la guérilla pour essayer de régler cet accord humanitaire.
359 policiers et soldats.
Et on a réussi à libérer comme ça 350 policiers et soldats.
Yo visité en muchas cárceles de la selva de Colombia, más o menos a 276 policiers et soldats.
Et moi, j'ai pu visiter les prisons des FARC dans la jungle et j'ai pu rendre visite à 276 prisonniers.
Comment vivent-ils?
Muy difíciles.
Très dur.
La forma de vida es supremamente cruel porque se les dificulta la entrada de alimento, de medicina.
La vie est très cruelle pour eux, ils ont très peu de nourriture, ils ont très peu de médicaments.
Normalmente mantienen enfermos, sino unos otros por las enfermedades tropicales de la selva.
Il y a beaucoup de détenus qui sont malades et qui ne sont pas soignés sur place avec des maladies tropicales.
Lo que los mantiene a ellos vivos allá también y con fortaleza es los mensajes que se mandan de los familiares por dos emisoras RCN y Caracol.
Alors ce qui aide beaucoup les prisonniers, c'est les messages qu'ils reçoivent à travers deux émissions de radio sur RCN et sur Caracol.
Cette émission qui passe de 2 à 6 heures du matin, Voces del Secuestro, la voix des enfermés.
Tristemente pues a través de Ingrid es que mundialmente se ha conocido el secuestro en Colombia.
Et c'est malheureusement triste que ce soit à travers le cas d'Ingrid Betancourt que l'on puisse savoir dans le monde entier ce qui se passe ici en Colombie.
Y me alegra que hayan conocido las dos caras de Colombia.
Bon, je suis contente que vous ayez pu voir les deux facettes de la Colombie.
La de la pobreza, el conflicto.
Celle de la pauvreté, du conflit.
Y la del acomodamiento en las ciudades y la vida tranquila.
Et celle du confort et de la vie tranquille ici dans les villes.
Et la musique.
Y la música.
Vous êtes des champions du monde de la musique.
Sí, cierto. Nos faltan buenos gobiernos.
On a de la bonne musique, mais il nous manque de bons gouvernants.
Quel est l'air que vous préférez au monde dans la musique colombienne?
A mí me gusta toda la música colombiana, los vallenatos, los merengues, la salsa, muy especialmente la salsa.
Le merengue, le vallenato, la salsa, mais spécialement la salsa. Yeah.
Quel morceau?
Grupo Guayacán.
Ah, moi j'aime bien le grupo Guayacán.
Cali. Un disco de salsa que le gusta a Ingrid. Sí, alors, por la quinta más pasando es mi Cali bella que vas atravesando.
Ça, c'est une chanson que Ingrid aime bien.
Y otro dice, oiga, mire, vea.
Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, use la feria.
Merci à tous, merci à Marlene Orwella et l'association Asfami Paz. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse J'y suis. C'était une heure de reportage avec Guy Vanctil et Antoine Chao. À la technique aujourd'hui, Christian Thibaudot et Yann Bouillot. C'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry qui attend vos messages sur le répondeur de La Basse J'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.